Bonsoir Aude Lavigne, à demain 20h55 et bonsoir à tous.
La dispute. Ce soir, la musique.
Ce soir, Emmanuel Dupuis de Diapason et Eric Loret de Libération se font face. Nous allons nous disputer autour de deux sujets. Le Barbier de Séville de Rossini, mise en scène par Damiano Micheletto, avec une direction musicale de Carlo Montanaro. C'était l'Opéra de Paris. Et puis nous parlerons d'un DVD, un coffret DVD, La Passion selon Saint-Jean de Bach par le Berliner Philharmoniker, sous la direction de Simon Rattel, et une mise en scène de Peter Sellars. Nous évoquerons aussi plus rapidement l'album Stella di Napoli de Joyce Di Donato, sorti chez Warner Classic Erato. Et enfin, Amadis de Lully, gravé par Christophe Rousset et ses talents lyriques chez Aparté. Dans une vingtaine de minutes, nous retrouverons Antoine Guillot pour sa revue de presse culturelle quotidienne. Le jeu de la dispute vous permettra ce soir de gagner des entrées pour l'exposition Marcel Duchamp au Centre Pompidou. Enfin, nous avons rendez-vous avec l'invité de la dispute cette semaine, c'est l'écrivain Laurent Mauvignier. Et nous ouvrons cette émission non pas avec la nouvelle production du Barbier de Séville à l'Opéra de Paris, mais avec la sortie en DVD et Blu-ray de La Passion selon Saint-Jean, de Bach, par le Philharmonique de Berlin, dirigé donc bien sûr par Simon Rattel, pour une version mise en scène, nous dirons comment dans un instant, par Peter Sellars, un très beau coffret qui paraît sur le propre label du Philharmonique, le Berliner Philharmoniker Recordings. Nous écoutons tout de suite un extrait. La Philharmonie de Berlin, qui avait déjà enregistré et filmé en 2010 une passion selon Saint Matthieu, Bach, le même dispositif dont on va parler avec Peter Sellars également. Coffret DVD et Blu-ray également disponible. Les mêmes interprètes, chefs, orchestres, donc plateau vocal, metteur en scène, qui se sont retrouvés en février de cette année pour s'attaquer cette fois à l'autre passion de Bach qui nous est parvenue tout entière, celle de Saint-Jean. Peut-être avant d'entrer dans le détail de la production, un premier commentaire sur ces passions de Bach, messieurs. On commence par vous, Éric Loret.
Un commentaire général.
Peut-être.
Bon, la passion selon Saint-Jean qui précède, théoriquement, dans l'ordre d'écriture, celle selon Saint Matthieu, est réputée être un peu plus expérimentale, un peu plus raide, un peu plus, oui, voilà, austère, douloureuse, peut-être, parce qu'en particulier dans les récitatifs de l'évangéliste, par exemple, et de Jésus, il n'y a que la basse continue qui est donnée, alors que chez Saint Matthieu, toujours un quatuor de cordes qui assouplit un petit peu. C'est comme ça, semble-t-il, qu'on les reconnaît. Alors effectivement, on dit les critiques disent en général, voilà, Saint Matthieu c'est une messe et Saint Jean c'est un opéra. Donc de fait, il m'a semblé, parce que j'ai regardé, alors j'ajoute un détail technique qui ne fera pas le bonheur du marchand de DVD, c'est qu'en fait elles sont visibles toutes les deux pour 9,90€ la semaine sur le site ou sur l'application iPad, etc. du Berliner Philharmonica, sans les sous-titres cependant.
Bon, enfin, je précise. Ça va dans la même poche, hein, parce que c'est voilà, Berliner Philharmonica dans les deux cas.
Donc pour 9,90€ vous avez 7 jours pour regarder tout ce que vous voulez.
Et pour 39,90€ on l'a.
Donc on s'aperçoit effectivement voilà. La mise en scène de Sellars joue un petit peu ça, parce que dans Saint Matthieu c'est un peu plus statique et là on va dire, mais je vois qu'Emmanuel a des précisions à apporter, et là il y a un peu plus de dramatisation. Moi j'étais un peu perturbé sur l'ouverture justement par le fait que le chœur donc qui incarne les souffrances de Jésus se roule par terre en se berçant. Au début, ça m'a un peu laissé perplexe, si effectivement ça appelle la berceuse finale de la Passion selon Saint Jean, donc ça fait sens. Et puis, bon, cette dramatisation n'est pas non plus. Elle peut paraître surprenante au début, puis après elle passe assez bien à mon sens.
Mais je vous ai lancé sur la musique et déjà vous nous donnez à voir des images. Alors il faut quand même expliquer un peu plus à nos auditeurs de quoi il s'agit, puisque effectivement le dispositif imaginé par Peter Sellars c'est à la fois d'une grande simplicité, en même temps moi je trouve d'une grande beauté, puisque donc les chœurs, les solistes sont sur le même plateau que l'orchestre, comme pour une version de concert, sauf qu'ils jouent. Vous l'avez dit, les chœurs commencent par exemple dans cette Passion selon Saint Jean allongés au sol. Plus tard, une lampe d'interrogatoire viendra descendre comme ça au-dessus de la tête d'un Jésus à genoux, main bandée dans le dos, un bandeau sur les yeux et main attachée dans le dos. Donc ça joue. Certains des solistes jouent véritablement des situations, mais dans un tout petit espace avec effectivement Samuel Rattel, le chef qui est juste là à côté d'eux. Il y a quelque chose qui amplifie bien sûr l'idée du dialogue texte-musique, parce qu'ils sont vraiment littéralement ensemble dans le même espace. Le livret étant donc pour partie cette traduction de Martin Luther de l'Évangile selon Saint Jean, et pour partie donc d'autres versions de passions écrites à la même époque que celle de Bach.
Et une partie dont on ignore absolument d'où elle vient.
Tout le reste dont on ne sait pas où il l'a
contrairement
attrapé.
Au livret de Saint Matthieu qui lui avait été façonné assez rapidement, mais par le même auteur.
Alors on revient peut-être sur la dimension musicale, Emmanuel Dupuis.
Il faut d'abord saluer le travail de Simon Rattle, parce que bon, c'est quand même l'orchestre philharmonique de Berlin que l'on entend. Donc l'orchestre de Karajan, qui joue aujourd'hui la Passion de Bach comme les meilleurs ensembles baroques, avec la même finesse, avec la même science stylistique. Donc là, on mesure le chemin parcouru par cet orchestre sous la direction de Simon Rattle, et ce chemin est véritablement immense, je trouve. Maintenant, pour revenir sur le projet lui-même, bon, ça n'est pas vraiment du théâtre, puisque d'abord, ça ne se passe pas dans un théâtre, ça se passe à la Philharmonie de Berlin, qui est une salle de concert, avec le plateau au centre de la salle, comme chacun sait. Et effectivement.
Chacun ne sait pas, mais on peut dire que le public est tout autour.
Le public est tout autour, effectivement.
C'est une formule rhétorique, comme chacun sait.
Certains pourraient mal le prendre, comme chacun sait aussi.
Chacun sait. Donc, ça n'est pas vraiment du théâtre. Et moi, je pense que ça va au-delà, que c'est une sorte de ritualisation, c'est plutôt une forme d'expérience spirituelle. Alors, effectivement, vous avez parlé de ce chœur au début. C'est assez surprenant, parce qu'au début, on voit les musiciens et le chœur entrer en scène. On s'attend à voir un concert serre traditionnelle, et puis le cœur s'allonge par terre, et puis il y a cette gestique assez étrange, et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ce qui se passe, c'est que tout simplement, le drame commence. Et je dis le drame parce que Sellars parvient vraiment, à travers simplement quelques gestes, quelques regards, à raviver la dimension à la fois spirituelle mais aussi charnelle de la passion. Et qu'on soit croyant ou non, c'est pas du tout la question, qu'on soit croyant ou non, on se prend cette vérité, la vérité de la passion du Christ en pleine figure, et moi je trouve ça assez bouleversant.
Éric Lauré.
Ah oui, alors effectivement, passé le premier étonnement, puisque chez Saint Matthieu, effectivement, il y avait le même dispositif exactement, mais comme je l'ai dit, c'était à cause du texte, un peu moins dramatisé, c'est-à-dire le cœur restait debout, avait beaucoup moins de gestes, évident, là.
Ah oui, là
on nous dit, effectivement, l'évangéliste dit, ils tombèrent par terre, et plouf, ils tombent tous par terre, bon...
C'est souvent plus subtil que ça, hein.
C'est le début, en fait, qui demande un moment d'accommodation.
Oui, c'est bien, au moins, ça part sur un peu fort.
Vous l'avez amplement décrit, il y a effectivement ce Jésus, les yeux bandés, qui va se retrouver finalement par terre durant toute la seconde partie, qui est celle de la crucifixion même, enfin, la flagellation, etc. Tout ce qu'il subit, là, il est totalement par terre. Pratiquement, il n'intervient plus, d'ailleurs.
Et une très belle image dans un halo de lumière aussi.
Oui, voilà. Alors, donc, c'est un halo de lumière duquel il disparaîtra. Mais Marc Padmore, qui est un évangéliste de génie, accompagne, je crois que c'est pour beaucoup dans ce qu'Emmanuel a dit, ce côté rituel, mais aussi rituel familier, intime. Il accompagne à la fois Jésus, mais tous les autres personnages. Pierre, qui renie, hein, parce qu'il y a, pour le dire bêtement, il y a une intrigue principale, en quelque sorte.
C'est
si c'est un opéra, il y a une intrigue principale et une intrigue secondaire, qui est le reniement de Saint-Pierre. Alors Saint-Pierre, qui a le même interprète, à savoir Christian Gerhaher, que Pilate, évidemment, ce qui permet de lier, de donner une épaisseur au personnage, hein, dans le doute, dans l'hésitation, dans la vilénie, enfin tout ce qu'on veut, qui est extrêmement humain. Donc, Padmore, l'évangéliste, accompagne au plus près, hein, comme s'il ventriloquait, comme s'il soufflait presque les paroles au personnage, comme une sorte d'ami, de protecteur, d'observateur. Donc, on est effectivement, comme l'a dit très bien Manuel, dans un rituel, mais un rituel effectivement charnel, parce qu'on est dans la proximité des corps, je crois. Et ça fonctionne extrêmement bien. Et je trouve que l'idée de cet évangéliste qui suit, voilà, qui est le double presque de chacun des personnages, enfin pas tous les personnages, alors, puisque lorsque Tupi Litipu intervient, le ténor qui est chargé des airs, lui, il est toujours à distance, en fait, comme une espèce de second cœur. Mais enfin, disons que les personnages principaux, ceux du drame, ils sont vraiment, ils font corps avec lui, avec le récit.
Oui, mais je pense que tout ça tient beaucoup. Ça tient évidemment au talent de tous les solistes. Marc Padmore est évidemment un évangéliste absolument exceptionnel, mais pas du tout un évangéliste précieux. Au contraire, c'est totalement écorché vif. Quoi. Mais je crois que ça tient beaucoup au génie de la direction d'acteur de Sellars, parce que je crois qu'on peut employer ce mot. Je pense que là, il y a une vraie leçon de direction d'acteur. Je pense que tous les apprentis metteurs en scène devraient regarder cette vidéo. D'ailleurs, c'est assez cruel ce qu'on fait ce soir, parce que tout à l'heure, on va parler d'un spectacle qui a été fait.
Ce qui est un peu le contraire.
Avec une certaine débauche de moyens et qui est finalement assez vain. Et là, nous parlons d'un spectacle qui a été fait.
C'est pour ça que j'ai commencé par Saint-Jean. Hein.
Non, mais là, la sobriété des costumes coûte très cher dans la version Sellars.
Spectacle qui a été fait avec rien, effectivement, c'est-à-dire ni costume, ni décor, simplement un projecteur et un bandeau sur les yeux du Christ. Voilà. Et malgré tout, c'est absolument bouleversant, parce qu'effectivement, il y a ce génie de la direction d'acteur de Sellars. La façon dont il dirige le cœur, bon, c'est vrai qu'au début, c'est un petit peu perturbant, mais c'est absolument fabuleux quand même, parce que c'est une gestique qui est calquée à la fois sur les mots et sur la musique. Donc, il y a une espèce de polyphonie théâtrale qui est extrêmement virtuose. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment très, très fort.
Alors, en même temps que vous parlez, je cherchais dans mes documents, je ne trouve pas qui est le réalisateur de ce DVD. Alors, je ne sais pas si Peter Sellars lui-même l'a supervisé, je ne trouve pas l'information. J'aurais dû mieux chercher, parce qu'il y a quand même aussi un travail malgré tout de
Captation,
de montage, d'axe de caméra, enfin, qui est qui est très, très, très beau et très précieux, je trouve, aussi, et qui rend absolument compte de ce que vous dites l'un et l'autre. Et ce spectacle m'a fait penser, enfin ce spectacle, oui, je dis ça, mais à cette autre façon qu'avait eu Peter Sellars de se mettre au service d'un projet, qui était le Tristan et Isolde, dont on a parlé plusieurs fois ici avec les vidéos de Bill Viola, où c'était quand même très compliqué, avec ces images monumentales de Bill Viola, notamment quand on l'a vu à Paris, à l'Opéra Bastille, d'avoir finalement un tout petit plateau pour raconter cette histoire magnifique. Et là aussi, je trouvais qu'il y avait une direction d'acteur extrêmement précise qui devait jouer avec tout le reste. Et là, il y a aussi cette façon là, très fine de diriger de Peter Sellars. Et je suis absolument d'accord avec vous. C'est quand même un travail d'une extrême complexité et qui donne l'impression d'une très grande simplicité.
Oui, sur ce que dit Emmanuel sur les regards, je crois qu'il y a aussi la fonction de l'intercesseur, en fait, qu'il met éminemment en scène, à la fois l'évangéliste, mais surtout il y a un moment que moi j'ai trouvé extraordinaire avant le dernier choral, qui est le moment où Rattle laisse la baguette et il s'approche, on le voit, il est filmé de dos, il est pratiquement au bord de la scène, observant effectivement les derniers moments, enfin le moment où le Christ disparaît, avant de retourner diriger l'orchestre. Donc il y a effectivement un côté crèche comme ça, où chacun vient voir, et on est nous happés par le regard effectivement de ces gens qui sont observateurs, accompagnateurs de la passion.
Effectivement, il faut préciser que Rattle aussi participe totalement à ce projet théâtral. Rattle, non seulement Rattle, mais aussi les musiciens qui souvent sortent de l'orchestre quand ils ont des solos, s'avancent près des chanteurs pour les accompagner au plus près. Cette passion, c'est un dialogue aussi, et cette idée du dialogue est totalement toujours présente tout au long du spectacle de Peter Sellars.
Avec Laurent, vous pouvez ajouter je rajoute quand même que non seulement en plus ce coffret est très beau, en plus c'est un très bel objet, et il faut dire que parmi les suppléments, enfin celui qui est vraiment intéressant en tout cas pour cette passion selon Saint-Jean, je n'ai pas vu moi la passion selon Saint-Matthieu, mais il y a un entretien croisé entre justement Simon Rattle et Peter Sellars, qui est très riche, très simple. Hein, c'est pas, mais on voit à quel point les deux hommes sont vraiment embarqués dans la même histoire et ont envie de raconter la même chose, de vivre la même expérience. Et c'est souvent sans grand intérêt, ce type d'entretien. Là, c'est très riche, j'ai trouvé.
Oui, tout à fait.
Sellars disant qu'il ne voulait absolument pas le faire, qu'il pensait que c'était... Il dit, mais comment ? Mais c'est une espèce de brouillon de Saint-Matthieu, on ne va jamais y arriver. Et Rattle lui répond, mais tu vas regretter amèrement ce que tu as dit dans pas très longtemps. Il dit oui, et d'ailleurs le moment où je regrette, c'est maintenant.
Ouais. Et de la même façon que Rattle dit qu'il a découvert cette passion bien tardivement sur une cassette, en écoutant ça dans sa voiture, quand il avait fait cette cassette, et qu'il avait quand même mis un certain nombre d'écoutes avant de réaliser l'ampleur de cette partition.
De fait, elle est moins divulguée que la Saint-Matthieu.
Que la Saint-Matthieu, est peut-être une partition plus riche, avec des ressources dramatiques peut-être plus fortes également, plus évidentes. Ce qui explique que le spectacle réalisé par la même équipe est aussi fabuleux. Quoi. Ce sont deux sommets. Et moi, je trouve deux portes d'entrée absolument. Pour quelqu'un qui ne connaît pas les passions, c'est vraiment la meilleure façon d'y accéder, c'est de regarder ces vidéos, franchement, parce qu'en plus, on peut suivre le texte, le comprendre, et c'est essentiel quand on n'est pas germaniste. Les sous-titres sont d'une grande aide.
Sauf sur l'appli ou sur le site.
D'accord.
Pour ça, où j'ai bien cherché partout, il n'y a pas de sous-titres.
Bon,
écoutez,
c'est comme ça.
Même en anglais.
Bien qu'il y ait des différences. Le DVD et le Blu-ray, les DVD et Blu-ray des deux passions, selon Saint-Jean et selon Saint-Matthieu, de Bach par la Philharmonie de Berlin, dirigé par Simon Rattle, cette version mise en scène par Peter Sellars, ce sont donc des coffrets édités par le Berliner Philharmoniker Recordings.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Et dans une quinzaine de minutes, nous disputerons donc en effet autour de la nouvelle production du Barbier de Séville à l'Opéra de Paris. Avant cela, il ne nous rase jamais, Antoine Guillot, c'est bien connu avec sa revue de presse culturelle quotidienne de La Dispute. J'ai piqué son titre à Marie Audroux dans Le Monde. Enfin bon, tout le monde a fait la même. Bonsoir, Gérard-Antoine.
Bonsoir, Arnaud Laporte. Bonsoir à toutes et à tous. Riccardo Muti quitte l'Opéra de Rome, a-t-on lu hier dans La Croix. Le maestro italien, qui avait pourtant été nommé en 2011 chef honoraire à vie de l'institution lyrique, a décidé de démissionner. Il n'assurera pas les productions d'Aïda de Verdi et des Noces de Figaro de Mozart, qu'il devait y diriger. Dette à hauteur de 29 millions d'euros, grèves à répétition, plan de sauvetage auquel personne ne croit vraiment. gouvernement menace l'avenir de l'Opéra de Rome, jugeant que la situation ne lui offrait plus la sérénité nécessaire. Riccardo Muti, 73 ans, se concentrera désormais sur ses deux orchestres, le somptueux symphonique de Chicago et l'orchestre Cherubini, composé de jeunes musiciens. Muti quitte donc la ville de Rome. La ville de Paris va-t-elle quitter sa philharmonie ou du moins s'en désengager? Père Ubu, quand tu nous tiens, après l'ouverture rocambolesque du musée Picasso, une nouvelle histoire française menace de devenir la risée de la presse internationale, se désole Ariane Bavelier dans le Figaro. La philharmonie de Paris, qu'on en juge, dernier des grands projets culturels français, le bâtiment de Jean Nouvel, commandé par l'État, la région et la ville de Paris, a réussi à sortir de terre, non sans mal, et à un coût pharaonique. Mais bon, une philharmonie, comme la plupart des capitales en possèdent, Berlin depuis 1963, comme ils sont construits encore une à Hambourg, un monument dédié à la musique symphonique, signé par un star-architecte, et poussé, non pas dans les beaux quartiers, mais porte de Pantin, dans cet est parisien longé de banlieue, où on ne pratique guère la musique classique, mais où on ne demande qu'à la connaître. La date d'ouverture est fixée au 14 janvier. Partout, l'on se glorifierait de voir pareille ambition concrétisée malgré la crise. On ferait monter l'impatience autour de cette ouverture. Mais soudain, à 4 mois du premier concert, la mairie de Paris juge que le projet est trop cher et pousse la crise du financement sur le devant de la scène. Il était temps. Depuis l'origine, en 2006, la ville est censée participer à part égale avec l'État à la construction et au fonctionnement de ce temple du symphonique où l'orchestre de Paris prendra ses quartiers. Alors maire de Paris, Bertrand Delanoë s'en était fait le garant. Anne Hidalgo, qui lui était proche, s'en désolidarise désormais, bien que le Premier ministre Manuel Valls, époux de la violoniste Anne Gravoin, soutienne le projet. Le 3 septembre, Bruno Julliard, adjoint à la culture de la ville de Paris, a déclaré tout fort ce qui se murmurait depuis l'élection d'Anne Hidalgo, et il le répète. Primo, la ville ne payera pas sa part, la moitié, du surcoût des travaux, 45 millions, principalement liés à l'envol d'un projet qui s'élève à 381 millions d'euros. L'État a fait savoir le 8 septembre qu'il s'en acquitterait. Secondo, elle ne souhaite pas davantage financer la subvention de fonctionnement fixée à 18 millions d'euros. Aussi, Julliard a-t-il annoncé la création, décidée, dit-il, entre Manuel Valls et Anne Hidalgo, d'une mission ville-État pour travailler un nouveau modèle de fonctionnement moins coûteux pour les tutelles. Il était temps de s'en apercevoir, s'exclame le Figaro. La philharmonie, qui restera le temple du symphonique, devra donc trouver un nouveau modèle économique et une nouvelle programmation, incluant des concerts de musique du monde et de musique actuelle. Économie et programmation, les deux sont liés. Faire venir un grand orchestre étranger est infiniment plus coûteux qu'un concert de musique du monde, fût-ce une star du raga indien. Donc ce monument, pensé pour accueillir les grandes phalanges du classique, avec auditorium de 2400 places, 7 salles de répétition et au centre du projet 2000 mètres carrés de pôle d'éducation artistique destiné au partage de la grande musique, passerait donc à côté de sa mission. Fils spirituel de Pierre Boulez, Laurent Bay, le président de la Philharmonie, qu'il porte à bout de bras depuis 2006, multiplie, nous dit le Figaro, les séances de yoga pour surmonter les difficultés qui ne cessent de frapper cette ambitieuse réalisation. Lassé, il pourrait jeter l'éponge. De toute façon, on sent que la Philharmonie ne suscite pas un enthousiasme débordant chez Anne Hidalgo, relève Michel Guérin dans Le Monde. Quelques petites phrases auraient pu alerter depuis un an. Le gros mot d'élitiste a même été prononcé dans l'entourage de la maire. Le Monde a joint Bruno Julliard. Agacé, il a d'abord accusé la presse d'allumer le feu. En l'occurrence, c'est plutôt la ville qui a sorti les allumettes. Puis, il a calmé le jeu. Nous n'avons rien contre la Philharmonie, qui sera l'une des plus belles salles de concert du monde. Mais encore, il faut sans doute ouvrir un peu plus aux musiques actuelles et élargir le public pour ne pas avoir une salle élitiste. Jusqu'où déplacer le curseur? Ce n'est pas à moi d'en décider, dit Bruno Julliard, mais on n'en fera pas une salle de hip-hop. Étrange tout de même, s'étonne Le Monde, que la ville veuille à la fois réduire sa subvention et exiger une réorientation du projet. Au poker, on paye pour voir, d'autant que les 2/3 des subventions de l'État pour la musique en France, soit 200 millions, vont déjà à des lieux qui se trouvent à Paris, notamment l'Opéra Bastille, et donc profitent à une ville sans que ses élus mettent un sou. D'autres grandes communes pourrait trouver ça injuste. Évidemment, on n'en serait pas là si nos finances publiques n'étaient pas au-delà du rouge, mais ce serait aussi un gâchis de ne pas faire tourner à plein régime une philharmonie au potentiel de Formule 1. Une question plus large est de savoir si Anne Hidalgo, qui ouvrira dans les Halles fin 2015 un espace dévolu au hip-hop, n'en profite pas pour prendre un virage culturel moins tourné vers les institutions, plus vers des initiatives populaires. Non, répond Bruno Julliard, ce qui est fini, c'est la politique coûteuse des grands travaux. Notre priorité est de redonner des moyens aux lieux existants, mais pas à la philharmonie.
Vous-même, vous avez du mal, hein, Antoine Guillot, avec cette philharmonie. Décidément, tout petit commentaire, messieurs, Emmanuel Dupuis.
Non, si ce n'est que pour dire que tout ça, en fait, était assez prévisible. On a fait, dès le départ, un projet totalement pharaonique qui n'est plus du tout dans l'air du temps. Et le montage financier paraissait très hasardeux et on le vérifie aujourd'hui.
Et puis on savait que le budget était évidemment minoré par rapport à ce qu'il coûterait, comme dans tous ces cas-là.
Mais bon, non seulement le budget de construction, mais surtout le budget de fonctionnement.
Ah, oui, 18
millions par an, c'est absolument énorme. Et bon, voilà, il y a lieu d'être assez inquiet pour les mois qui viennent.
Éric Loret ?
Sur la fée et l'harmonie, comme dit Antoine Guillot dans un lapsus.
La fée et l'harmonie.
Non, fail.
La fée et l'harmonie.
Non, je ne sais pas, moi, le soupçon d'élitisme, ça me laisse toujours extrêmement dubitatif, puisqu'on l'a partout, dans les médias, dès qu'on parle de quelque chose qui n'est pas connu. Alors, effectivement, la question, c'est plutôt comment est-ce qu'on apporte les choses aux gens ? Est-ce qu'on veut leur apporter ce qu'ils savent déjà à des fins de divertissement, ou bien est-ce qu'il y a encore une place pour la curiosité et l'inconnu ? Parce que, enfin, je ne sais pas, c'est un reproche que les études culturelles, par exemple, dans les années 80, reprochaient à tous les arts non populaires d'oser montrer aux gens des choses qu'ils ne connaissaient pas déjà. Mais a priori, à moins d'avoir des idées innées à la naissance, par définition, les choses, il faut bien qu'on les apprenne à un moment. Donc, il faut bien apprendre des choses qu'on ne connaît pas à un moment. Bon, voilà, je ne sais pas. Mais c'est très élitiste, ce que je dis.
Enfin bon, je ne crois pas, mais je partage votre sentiment, bien sûr. Alors, on va parler de quelque chose qu'on connaît, Joy DiDonato.
Oui, c'est beaucoup plus léger.
Bah oui, puis ça nous...
Ce n'est pas élitiste.
Non, ce n'est pas élitiste. Le bel canto napolitain, ce n'est absolument pas élitiste. C'était un genre totalement populaire à l'époque. Et ça doit le rester, d'ailleurs.
Alors, coup de cœur d'Emmanuel Dupuis avec ce disque...
Donc ce disque qui s'appelle Stella di Napoli, donc dernier disque de Joy DiDonato, donc bel canto début du 19e siècle à Naples. Alors bien sûr, on retrouve là des auteurs bien connus comme Bellini, Rossini, Donizetti, qui étaient les grands maîtres du bel canto italien.
Ils ne sont pas des apéritifs.
Hein. Non,
c'est pas du tout.
Non, je voyais votre tête, Bellini, je vous connais par cœur. Non, Rossini aussi.
Vraiment, ça vole haut ce soir.
On essaie de pas être élitiste, excusez-moi.
Voilà. On met des bouées de perceuse aussi exprès.
Si vous ne voulez pas être élitiste, vous découvrirez aussi en écoutant ce disque des auteurs moins connus, comme Pacini, Carafa, Valentini. Tout ça est très intéressant.
Pas Pacino, hein, vous avez compris.
Non, pas Pacino. Ni Valentino. Et c'est remarquablement chanté, à la fois de façon très, très intelligente et très virtuose. C'est remarquablement accompagné par l'orchestre de l'Opéra de Lyon, dirigé par Riccardo Minasi. Voilà, et je signale que les mêmes artistes donneront exactement le même programme samedi soir au Théâtre des Champs-Élysées. Donc allez-y, c'est le moment, c'est vraiment un concert à ne pas rater, c'est un disque à ne pas rater. Et tout de suite, on écoute un extrait, il s'agit de la toute fin de l'air final de Zelmira de Rossini.
Yeah.
Elle envoie le bois. Joyce ni Donato sur ce disque Stella di Napoli.
On peut dire, ouais.
On peut dire ça. Chez Warner Classics, Erato. C'était le coup de cœur d'Emmanuel Dupuis ce soir. Nous finirons cette émission avec un autre coup de cœur, bien sûr. Celui d'Éric Loret. Avant cela, et avant la deuxième grande dispute qui sera consacrée à cette nouvelle production du Barbier de Séville à l'Opéra de Paris, on retrouve l'invité de la dispute cette semaine. C'est l'écrivain Laurent Mauvignier. Laurent Mauvignier, on parle de musique ce soir dans la dispute. Alors on parle dans cette émission de toutes les musiques, musique classique, des musiques contemporaines, alors là de tout genre. Est-ce que la musique vous accompagne au quotidien? Est-ce que vous écoutez? De quelle façon?
Pas tellement, en fait. J'écoute pas beaucoup de musique.
Ça a l'air grave quand vous dites ça.
Ouais, ouais, parce que j'ai l'impression d'être très... on est quand même dans un monde où il faut écouter de la musique, en fait. Et alors, c'est vrai, je suis toujours un peu... Bon, j'écoute pas beaucoup de musique. Par exemple, quand j'en écoute, je me suis aperçu que je ne peux pas écouter de la musique assis. Il faut que je marche pour écouter de la musique, parce que si je ne transforme pas la musique en bande-son, ça ne va pas. Et alors, par contre, du coup, quand écouter de la musique dans le train, ou là je peux être assis, mais il faut que ça soit en mouvement, il faut que quelque chose soit en mouvement. Sinon, ça va pas. Voilà. Mais par contre, si je suis en mouvement, ça devient tout de suite. Mais je sais parce que je transforme ça en. Je suis au cinéma d'un seul coup. Donc voilà, il faut que je transforme ça, il faut que j'imagine ça avec une ambiance. Voilà, il y a quand même toujours un peu de visuel, sinon je suis un peu. Voilà, après...
Mais c'est-à-dire que même adolescent, il n'y avait pas les groupes de rock ou chanteurs, ou il n'y avait pas ce type de passion-là ?
Non, pas tant que ça. Enfin, un petit peu, mais j'ai envie de dire comme tout le monde, mais je regardais mes camarades être jeunes, voilà, ça, je trouvais ça bien. Moi, après, j'étais jeune parce qu'il fallait bien l'être, mais en fait sans plus, quoi. J'avais un peu l'impression de jouer mon rôle de jeune, quoi. J'aimais bien danser parce que voilà, pour me faire la fête et tout ça, mais c'était pas, j'avais pas l'impression de jouer ma vie dans cette affaire-là, en fait, dans la musique. Par contre, j'ai toujours rencontré beaucoup de gens qui aimaient la musique. Donc, quand j'étais étudiant, par exemple, j'étais colocataire d'un musicien de jazz, par exemple. Du coup, pendant un an, j'ai écouté beaucoup de jazz, par exemple. Voilà, il y a eu comme ça plein d'expériences musicales qui ont été importantes quand même. Par exemple, John Cage, ça a été important, par exemple, pour moi. Ou la musique répétitive. Je sais que la question de la musique répétitive dans l'écriture a quand même la question de la modulation, de la variation, de la reprise du même thème, etc. Je sais que voilà, ça et je sais que ça vient quand même de la musique, mais j'ai envie de dire presque par porosité, par capillarité, en fait, quoi, parce qu'autour de moi il y avait de la musique. Sauf que effectivement. Avoir un casque, marcher comme ça en écoutant, je sais pas, un adagio de Haydn, par exemple, ça m'est arrivé la semaine dernière de faire ça, bah, c'était sublime, quoi, en même temps. C'était sublime, et je me dis, oh, la musique, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais sauf qu'après, voilà, je me sens pas autant impliqué là-dedans, en fait.
Alors, il y a la musique, et puis il y a aussi quand même les chansons. Alors, on a évoqué le théâtre, on a évoqué les scénarios, on parlera évidemment plus particulièrement demain de littérature, mais vous n'imagineriez pas être parolier, chanson ?
Si, j'aimerais bien ça.
Aussi.
Si, ça, j'aimerais bien ça.
Ah.
Ouais, ouais, ça, j'aimerais bien. Mais ça, je pense que je le ferai jamais, ceci dit. Mais quand
vous
même.
Pas à l'abri d'une rencontre.
C'est sûr. Je dis, bon, après, on sait. Mais ça vient. Je pense pas que la démarche vienne de moi, en fait. Mais effectivement, pourquoi pas, quoi. Il y a des gens. Barbara, pour moi, ça a été. Puis ça reste important de temps en temps. Bon, voilà, de temps en temps, besoin de replonger là-dedans parce que c'est une petite mélancolie personnelle aussi. Mmh. Donc c'est bien d'y revenir. Mais oui, il y a des choses comme ça. Et puis j'écoute de la musique en courant, par exemple. sur Deezer, la radio France Culture, par exemple, écoute ça, voilà, des choses comme ça. Mais c'est vrai que j'aime bien la pop et tout ça, mais je retiens jamais les noms des uns des autres, je m'en fous. Il y a des chansons, c'est l'air du temps, c'est des choses. Et j'aime beaucoup ça, mais j'aime vraiment ça, mais en même temps, je me dis que je dois pas aimer tant que ça, dans la mesure où je retiens pas les gens, je cherche pas forcément à savoir ce qu'ils ont fait. Donc c'est que ça me passionne pas plus que ça, mais ça
vous empêche pas d'y prendre plaisir.
Ah oui, complètement, ouais. Bien sûr, ouais.
Non, c'est une belle, ouais. Une belle façon de pratiquer aussi, finalement.
Oui, c'est bien, puis ça me change un peu pour le coup de l'implication comme ça, un peu parfois un peu trop lourde de la littérature ou du cinéma, etc. Quoi. C'est complètement différent. Ouais.
Implication lourde, littérature, on verra, puisqu'on va en parler ensemble demain, Laurent Mauvignier. Nous poursuivons cette dispute musicale du jeudi en nous rendant à l'Opéra de Paris, salle Bastille, pour y découvrir la nouvelle production du Barbier de Séville de Rossini, opéra créé en 1816 à Rome, plus de 40 ans après la création de la pièce de Beaumarchais dont il tire son argument et son titre. Une histoire d'amour et de classe sociale, pour aller vite, l'œuvre sans doute la plus populaire de Rossini, pour son ouverture et le premier air de Figaro, notamment, et puis considéré... on imagine à juste titre quand même comme un des sommets de l'opéra bouffe italien. On écoute, avant d'en parler, un extrait de l'acte 1, on entend Figaro et le comte. Comincia a diventar sé e l'idea di quel metallo un vulcano l'anime ricomincia a diventar sì e l'idea di quel metallo un vulcano l'anime ricomincia a diventar a diventar a diventar un vulcano ricomincia a diventar. Voilà pour cet extrait de la production actuelle du Barbier de Séville à l'Opéra de Paris, puisqu'on a entendu de la musique, parlons-en, René Barbera chante le rôle du comte Malviva, Dalibor Genis celui de Figaro, la distribution changera en fin d'exploitation, on n'a pas entendu mais Karine et Rosina, et c'est la Carlo Montanaro qui est dans la fosse. Impression musicale pour commencer, Emmanuel Dupuis.
Impression musicale assez mitigée. Enfin, moi, je trouve la distribution dans l'ensemble assez moyenne. Karine Dehé, c'est une bonne musicienne, mais je ne trouve pas que ce soit une grande voix. Je ne trouve pas qu'elle ait énormément de charme, que cette Rosine ait énormément de charme. Le ténor que l'on vient d'entendre, idem, c'est une voix assez sonore, mais pas très chaleureuse. Alors, on retrouve le Figaro de Dalibor Genis qu'on connaît bien, puisqu'il était à l'Opéra de Paris déjà...
2002.
En 2002, voilà. Bon,
la production précédente de Colin Serrault avait fait la mise en scène.
Exactement. C'est un bon chanteur, même si la voix s'est un petit peu alourdie, comme on l'a entendu là, dans cet extrait. Il y a un très, très bon Bartolo, en revanche, de Carlo Lepore, qui est d'ailleurs le seul Italien de la distribution. C'est un petit peu dommage. Dans Rossini, il y a si peu d'Italiens.
Et le chef, il n'est pas italien ?
Le chef est italien, oui. C'est une distribution, c'est une direction.
Le metteur en scène aussi, non, mais parce qu'on parlait de musique, votre démonstration tombe à plat, j'ai l'impression.
Ça ne s'entend pas. Bon, enfin, disons qu'il y a quand même pas mal d'énergie dans cette direction, ça, il faut le reconnaître. Mais c'est une énergie que moi, j'ai trouvé quand même un petit peu univoque. Ça manque justement de respiration. Et même, c'est une énergie parfois même débridée au détriment de la cohésion de l'orchestre, notamment dans l'ouverture. Le soir de la première, je n'ai pas trouvé ça optimal.
Alors, je n'étais pas à la première, mais deux ou troisième représentation, je ne sais plus. Une première note que j'ai inscrite sur mon petit programme de salle, c'est bouillie sonore, vous voyez, pour l'ouverture.
Ah ben voilà.
Bon, on a entendu la même chose, bon,
il faut dire quand même, à la charge de l'orchestre, que ça se joue à l'Opéra Bassi, que l'Opéra Bassi pour Rossini, c'est absolument pas idéal.
Oui, mais du coup, on entend aussi des cuivres quand même assez défaillants.
Oui,
en tout cas, ce soir-là, c'était le cas. Des tempi qui sont quand même très étranges. Oui. Vous parliez tout à l'heure d'Alibor Genis, mais... on a l'impression qu'il fait la course avec l'orchestre quand même bien souvent aussi. Enfin, il y a quand même des choses très curieuses musicalement qui se passent. Mais Éric Loret, on n'a pas entendu votre sentiment pour l'instant sur la musique.
Vous connaissez ma célèbre théorie, c'est que comme en fait, bon, Rossini, comme pas mal d'autres compositeurs, je m'en fiche un peu.
Du coup, vous avez trouvé ça bien.
Massacré ou pas, ça m'est un peu égal. Bon.
Vous avez tort.
Non, mais j'assume parfaitement d'avoir tort. Mais je n'ai pas trouvé ça si affreux que ça. Effectivement, dans l'ensemble et sur le plateau vocal et dans la direction, il n'y a pas de prouesse, en tout cas, il n'y a pas d'accent, tout ça est, comme je suis d'accord, assez uniforme. Mais il m'a semblé, moi, en tout cas, sur l'ouverture, qu'il y avait une espèce de légèreté, enfin, de là où j'étais, ce que j'entendais. On n'était pas au même endroit, mais je ne crois pas que ça joue grand-chose.
Non, mais quand même, vraiment.
Qui faisait que ça passait sans être remarquable.
Vous n'aimez vraiment pas Rossini,
je vous confirme. Non, il n'y avait aucune lourdeur, il n'y avait pas...
Bon, aucun génie non plus.
Non, bien sûr.
Qu'un brio, qu'un éclat.
Évidemment, l'autre chose que je vais dire, parce que finalement j'ai l'impression que ça fait 3 ans que je dis le même truc, c'est que du coup c'est relativement cohérent avec tout. C'est-à-dire à la fois la mise en scène qui tourne tout le temps.
Décrivons.
Où il y a de bonnes idées, mais qui n'a aucune profondeur. Donc évidemment que l'ensemble du spectacle a une espèce de cohésion. Bah, malheureuse, peut-être, on dira, dans le divertissement de bon aloi, sans aucune profondeur, en fait.
Oui, mais justement...
Et que, voilà, ça ne cherche pas là au midi, là où il devrait se trouver, malheureusement.
C'est-à-dire
à 14h, en fait. Et que, bon, du coup, les gens passent plutôt un bon moment, ils rigolent, tout ça.
Juste donner quelques images.
Mais évidemment, c'est pas... Voilà, il y a 10 fois mieux.
Mais justement, Rossini, ça n'est pas ça. C'est pas le divertissement de bon aloi, c'est pas l'opérette à...
Ah non, mais je dis pas que ça devrait être...
C'est pas ça du tout.
Le résultat, c'est ça.
Le résultat, c'est ça. Mais justement, Rossini, ça n'est pas ça. Et alors, décrivons un petit peu ce spectacle, qui effectivement, ayant l'honnêteté de le dire, a été très applaudi le soir de la première, en tout cas, y compris l'équipe de réalisation du spectacle, ce qui est assez rare à l'Opéra de Paris.
Enfin, le soir de la deuxième, c'était un peu à moitié vide. Hein, quand même,
c'est vrai, il y avait beaucoup de rangs vides, c'est étonnamment. Vraiment.
Parce que vous aviez écrit votre critique en
peut-être. Non, mais il faut dire aussi que
les
places sont très chères à l'Opéra de Paris, surtout pour ce genre de spectacle qui est assez moyen, en fait.
Alors, décor de Paolo Fantine. Voilà. Vous voyez les affreux moulages de rue typique qu'on peut acheter dans les boutiques pour touristes.
Vous exagérez.
Non, mais c'est ça, pour donner une image à nos auditeurs.
Quand le rideau se lève, on voit effectivement cette façade d'immeuble hyper réelle. Oui, enfin, voilà.
Non, c'est un immeuble.
On voit un immeuble.
Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs.
Non, il n'y en a qu'un.
Il n'y en a qu'un qui tourne. Il y a plusieurs immeubles.
Oui. Enfin, bon, oh, bon, bref, c'est
une, soyons précis.
Une immense façade qui occupe tout l'espace scénique, avec ses antennes paraboliques, son linge aux fenêtres, un bar à tapas à cours. Bon, bref, tout ça est assez impressionnant, il faut le dire. C'est aussi un décor.
Il est à jardin, mais enfin bon, on va pas se fâcher.
Voiture.
Oui, un jardin, pardon.
Voiture, scooter,
j'ai toujours eu du mal avec la droite et la gauche. Bref. tout ça est assez. Voiture, scooter, en fait, tous les poncifs de la mise en scène moderne, entre guillemets. Tout ça est effectivement assez impressionnant. Ce décor a quand même un avantage, c'est qu'il est très favorable acoustiquement aux voix. À un moment, la partie centrale du décor se met à tourner sur elle-même. Et là, bon, on voit l'envers du décor, c'est-à-dire on rentre dans
la maison de poupée, quoi.
Voilà, maison de poupée, dont on voit plusieurs pièces, plusieurs escaliers également. Et Micheletto va jouer de ce décor en faisant bouger les personnages en permanence, en les faisant changer de pièce.
D'ailleurs, on peut passer tout le spectacle à regarder ce qu'il y a dans chacune des pièces.
Voilà, ça occupe au moins.
Avec tous ces crucifix, ces portraits, les posters de Johnny Depp et je ne sais qui dans la chambre de Rosina. Enfin, on n'en finit pas de regarder tout ce qu'il y a.
Voilà, mais exactement. Enfin, disons que c'est assez étrange parce qu'on a l'impression qu'il y a chez Micheletto une peur du vide. Donc,
c'est sûr.
L'immeuble. Ouais. Il y a aussi des figurants qui
sont très mauvais, très mal dirigés.
Qui font des gags de plus ou moins bon goût. Bon, bref.
Mais qui ne distraient pas l'attention, ceci dit, de l'action principale, parce qu'on ne regarde pas trop ce qu'ils font, immeuble.
Non, immeuble, voilà. Donc il y a une espèce de peur de vide, et en même temps, ce spectacle est assez vide. Il faut dire, tout simplement parce que Micheletto ne nous dit rien de la psychologie des personnages, ou alors quand il nous dit quelque chose, ça tombe à côté. C'est-à-dire, par exemple, Rosine, il en fait une espèce d'adolescente rebelle, alors que ce n'est pas ça du tout. C'est la future Contessa Almaviva. Là, pour deviner que c'est la future Contessa Almaviva.
Ah, il faut se lever de bonheur.
De toute façon, Beaumarchais, on est à des années-lumière. Et il faut quand même rappeler que chez Beaumarchais, il y a quand même une dimension politique qui est moins importante dans Le Barbier de Séville que dans Le Mariage de Figaro.
Mais quand même.
Évidemment, mais quand même. Et là, la dimension politique disparaît totalement puisque tout ce petit monde appartient à la même classe sociale. Donc, il n'y a plus. Tout ça est totalement arasé. C'est assez ennuyeux, finalement.
Mais vous disiez que. Pardon, Éric Loret.
Ouais, j'allais dire, moi, j'ai pas été insensible au tournis, justement. On peut dire ça tourne cinématographiquement. Je trouve que le décor est assez beau. Il nous a fabriqué une espèce de décor napolitain ibère, c'est-à-dire que ça se passe en Espagne, mais en fait, c'est visiblement à Naples. Il y a quelque chose de cinématographique dans les éclairages, enfin, on dirait un peu du Fellini, pas mal.
Bon. Oui, c'est faire un sujet à Fellini, je trouve.
Ouais. On peut se dire aussi les entrailles révélées de la maison, c'est un petit peu l'autre côté de la précaution inutile, puisqu'après tout, c'est calqué sur l'école des femmes de Molière, en fait, cette pièce de Beaumarchais. On a l'impression de voir l'envers de la pièce de Molière, comme ça. Et que toute cette mise en scène de cette farcesque, cette gestuelle. Ininterrompu avec Rosina qui presse son citron, le moment où on arrache les épines du cactus. Là où je vois avec mes lunettes de presbyte, c'était un citron, mais c'est sûrement une orange.
C'est une orange.
Et elle faisait pas de la cuisine, non? Vous êtes sûr? C'était pas un citron pour un poisson? Bon, bref. Tous les gestes sont. Était pour moi asservi à la musique, c'est-à-dire c'est comme si c'était une espèce de clip en 3D géant, c'est-à-dire que chaque note finalement, chaque instrument provoquait comme par galvanisation, par électrisation, un mouvement dans les chanteurs, ce qui fait qu'ils venaient, ils montent, ils descendent tout le temps.
C'est comme votre micro,
je suis
vous frappez.
C'est assez insupportable. Mais il y avait un truc du théâtre des marionnettes pour moi, quoi, là-dedans. Alors, viens, c'est sans aucune profondeur, je suis absolument d'accord.
C'est ça, mais c'est vain, en fait.
Ça sert à rien, mais c'est pas non plus complètement désagréable, même si j'avoue que je me suis ennuyé.
Mais non seulement c'est vain, mais à force de monter et descendre des escaliers, excusez-moi, il y a quand même des fois où la voix n'arrive pas jusqu'à nous, parce qu'effectivement, quand on chante de dos au public, en plus, en montant et descendant, enfin, il est question de souffle, tout simplement. C'est faire quand même bien peu de cas des chanteurs.
Une musique productrice de gestes, de corps et de mouvements,
c'est l'anti-Traviata de Benoît Jacquot, en fait.
Ça pouvait peut-être fonctionner.
Mais ça ne fonctionne pas.
Je cherche un truc pour sauver. Hein,
ça ne fonctionne pas parce que...
Vous êtes bienveillant.
Parce que une transposition à l'opéra, enfin au théâtre même, il faut qu'elle soit justifiée, qu'il y ait une logique. Là, la logique, je ne l'ai absolument pas
là,
vue.
Là, il nous dit, j'ai voulu faire du Almodovar.
Aussi, c'est faire insulte à Almodovar.
Absolument.
Je suis désolé.
Non, mais je suis désolé aussi.
Ça a le goût et la couleur d'Almodovar, mais ça n'a absolument pas la profondeur. Oui, de loin.
De très, très loin, oui.
De loin dans le brouillard.
Oui.
Donc finalement, on a un spectacle qui est peut-être efficace, on va dire ça, mais
Oui, mais c'est une efficacité Las Vegas, un peu, moi j'ai l'impression que ça...
Et je trouve que dans le spectacle de Colin Serrault, que l'on a vu précédemment à l'Opéra de Paris, là, la transposition dans l'Espagne arabo-musulmane est justifiée.
Il y avait un propos, au
moins. Du coup, on comprenait...
Qu'est-ce que c'est que la condition féminine.
Exactement, l'enfermement de Rosine, etc. On le percevait, il y avait un propos. Là, il n'y a pas de propos, c'est simplement un spectacle haut en couleur, dans l'air du temps, sympa, mais assez lisse.
Mais c'est vrai qu'effectivement, la psychologie des personnages est incompréhensible.
Ne dites pas des mots qui dépassent
leurs intentions. On ne sait pas pourquoi ils sont mus, sinon par la musique.
Elle est inexistante, oui, effectivement. Ouais,
c'est des marionnettes de musique, en fait.
Bon, vous avez entendu ce que j'avais à dire sur Babier de Séville, qui est à l'affiche de l'Opéra de Paris, jusqu'au 3 novembre, qui va être visible sur Culture Box à partir de demain. On pourra l'entendre également. Et on peut l'entendre au moment même où on parle, je crois, sur l'antenne de France Musique. On ne va pas changer de chaîne maintenant pour vérifier. Mais si c'était toute la journée consacrée à Stéphane Lissner qui prend la Bastille, et je crois que ce soir, chez nos camarades, on entend ce Barbier de Séville.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Et avant de conclure cette émission avec le coup de cœur musical d'Éric Lauré avec Antoine Guillou, nous allons faire la séquence du jeu de la dispute. On va répéter Philharmonie plusieurs fois. On vous a gagné hier des places pour des entrées pour l'exposition Émile Bernard au musée de l'Orangerie. On en parlera ici même le 8 octobre. La question était, Antoine,
dans quel pays le peintre Émile Bernard s'exila-t-il à partir de 1893 pour une période de 10 ans?
La réponse est
en Norvège, non, à cause de la lumière du Nord. Non.
C'était en Égypte. Vous n'avez pas gagné d'entrée pour cette exposition.
C'est la réflexion du sable qui m'a fait prendre ça pour des aurores.
On fait gagner ce soir, et vous ne jouez pas, Eric, les entrées pour l'exposition Marcel Duchamp, dont on a dit grand bien hier soir, ensemble. Cette exposition est visible jusqu'au 5 janvier. Pour gagner les entrées, on répond à quelle question, Antoine?
Quel est le titre complet de la dernière grande œuvre de Duchamp qui ne fut présentée au public qu'après sa mort en 1969?
Non, vous ne direz pas, et en plus il faut être très précis.
En plus, on ne peut jamais se le rappeler en entier. Donc.
Oui, et en plus, Duchamp a une graphie particulière, enfin tout ça doit être respecté par nos auditeurs. Ils nous envoient leurs réponses avec leurs coordonnées postales sur une adresse mail et une seule, auditeurfranceculture@radiofrance.com. Et comme on va finir en musique ce soir, comme tous les jeudis, je fais d'abord le générique fin de cette émission pour remercier Emmanuel Dupuis, Antoine Guillot et vous-même, Éric Lauré, d'avoir fait cette émission avec moi ce soir. Remercier l'équipe de La Dispute, Camille Baron, Pascaline Bonnet, Séam Boutata, Daniel Finot, Antoine Guillot et Laurence Millet. Remercier Stéphane Touvenin qui a assuré la prise de son, Daniel Finot qui a assuré la réalisation. Dire à nos auditeurs qu'on se retrouvera demain soir à 21h pour une dispute consacrée à la littérature en compagnie d'Elisabeth Franck-Dumas et Philippe Delaroche. On parlera d'Antoine Volodine et de son Terminus radieux, et puis du livre Les Indomptés de Nathalie Bauer. On retrouvera également André Chabin pour sa chronique mensuelle sur la vie des revues, puis les choix de Laurent Mauvigny, la revue de presse d'Antoine Guillou, le jeu de la dispute, tout ça comme d'habitude. Mais pour se quitter ce soir, ce sera de la musique, celle choisie par Éric Lauré. Et on va retrouver un ancien invité de la dispute, d'ailleurs, Christophe Rousset.
Oui, alors pour compléter votre collection de Lully Quino par Rousset, après Phaéton, Bellérophon, Roland Percé, cet Amadis de 1684 qui inaugure la troisième manière de Lully et Quino, celle où il délaisse la mythologie au profit d'histoires de grottes, de sorcières et de chevalerie, puisqu'après ils feront Roland et Armide. Alors, je vous raconte l'histoire. Vaguement, Amadis, malade d'amour pour Oriane, se réfugie dans un bois enchanté, enfin ensorcelé par Arcabone. Arcabone qui veut se venger d'Amadis sans savoir en fait que c'est lui qu'elle cherche, car c'est son sauveur. Et donc, ce benêt d'Amadis, interprété par Cyril Ovitti, s'introduit dans ce bois épais, c'est le titre de l'air, dont Lully disait qu'il était son préféré de toute sa vie.
Ouais, et Christophe Rousset et les talents lyriques, comme à leur habitude.
Comment ils sont?
Ouais.
Bon, ils sont bien, hein. Il y a 3 disques, ça va, c'est pas mal.
C'est tout ce que vous avez à dire?
Ouais, bah il fallait faire court, non, c'était pas ça?
Non, je vous ai demandé de faire court, hein, Éric Lauré. Tout le monde croit qu'il faut faire court dans cette émission qui dure quand même 58 minutes 30 chaque soir. Hein. Mais non, mais c'est tout va bien comme ça. On va écouter cet extrait. Bois épais redouble ton ombre. C'est le titre de cet air, donc extrait du CD, coffret CD, Amadis de Lully. Christophe Rousset et ses talents lyriques, tout ça nous conduira très tranquillement jusqu'à la fin de cette émission. Et dans quelques instants après, vous retrouverez le journal de la rédaction.
jeu.